Vertement, mais 100 grammes plus 2 grammes dans un four à thermostat 8 et cuisson 20 minutes, ça ne veut rien dire. Il faut faire passer dans la recette, c'est déjà de l'émotion du choix du produit, la foi un petit peu que l'on va avoir pour régaler les amis, et toutes ces choses-là, on les a en soi et on veut les exprimer. Et c'est ça, ça a tout autant d'importance que la recette de cuisine.
Le goût du monde, Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans Le Goût du Monde. La cuisine, c'est bien plus que des recettes, disait à l'instant le chef Alain Chapelle. Et s'il est une philosophie que nous avons ici, dans Le Goût du Monde, c'est bien celle-ci. La cuisine, c'est bien plus que des recettes, c'est aussi cette curiosité qui pousse à regarder au-delà de la marmite et de ses fourneaux, rencontrer des producteurs, voir pourquoi les légumes poussent et de quelle manière et comment, avec quelle terre et pourquoi, sans gaspiller, le respect et l'humilité, un esprit qui, je pense, habite notre invité. Bonjour Sugio.
Bonjour Clémence, bonjour tout le monde.
Bonjour Sugio Yamaguchi, merci d'être à notre table aujourd'hui, on est vraiment ravis de vous recevoir.
Merci de m'avoir invité.
Vous êtes japonais d'origine, cuisinier, chef du restaurant Botanique, alors là on est à Paris, dans l'est de la capitale, Botanique ouvert en 2015. Oui. Comment est-ce que vous en êtes venu à la cuisine?
Tout début, j'ai rencontré un chef, j'ai trouvé un petit travail quand j'avais 16 ans. Et c'est un chef qui était assez drôle, qui était assez professionnel. Donc c'est lui qui m'a appris la joie de découper des légumes, éplucher une viande, voilà, ce genre de choses.
Il était japonais, ce chef?
Ouais, c'est un japonais. Donc c'était un petit restaurant de barbecue coréen, en fait. Quand on est petit, on adore manger ça. Mais bon, moi, je ne pensais jamais à travailler dedans, mais ouais, c'est quelque chose que j'ai découvert. C'est super intéressant et drôle.
Comme j'ai eu la chance de parler avec vous, je sais même son nom à ce monsieur, puisque vous me l'avez donné. Il s'agit de monsieur Yoneyama. Mm-hmm. Et si je me souviens bien de ce que vous m'avez raconté, vous étiez aussi séduit par le fait que c'était un artisan. Vous aviez insisté sur ce point-là. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être et cuisinier et artisan?
Ben justement, ce que j'aime, c'est vraiment, j'aime bien manger, j'aime bien cuisiner, j'aime bien toucher les ingrédients, j'aime bien toucher plein de choses. Et du coup, justement, monsieur Yoneyama, il m'avait appris comment toucher la viande, comment toucher un légume, un morceau de carotte, un morceau d'oignon. C'était vraiment, c'était quelque chose que j'ai complètement découvert. Je pense que ouais, c'est depuis à ce moment-là que franchement, j'adore toucher les produits. Et du coup, quand on veut être artisan, il faut toucher les produits. C'est quelque chose qui est assez important pour moi.
C'est un travail qui est assez sensuel en réalité. Oui. On touche, on sent, on est en contact.
On écoute aussi.
Et on écoute. Mmh. Racontez-nous, on écoute.
En fait, ce que j'aime, c'est le son, en fait. Des fois, ça peut être bruit, mauvais bruit, que j'aime pas trop d'ailleurs. Parce que maintenant, des fois, même si j'aime bien cuisiner, des fois, je ne peux pas être en cuisine. Des fois, je suis en salle pour discuter avec les clients et tout. Pas maintenant, je parle d'avant.
et un jour, à nouveau, peut-être, on espère tout.
Et du coup, ouais, donc, des fois, je sors de cuisine, mais j'entends un bruit qui ne me bat pas trop. Très souvent, c'est quelque chose qui est cramé ou quelque chose qui est tombé, par exemple. Donc, quelque chose qui n'est pas normal. Du coup, justement, avec l'oreille, je peux avoir pas mal d'informations. Et c'est quelque chose qui est assez important pour moi. Même quand je cuisine, c'est un peu la même chose. Quand on fait genre de 5-10 trucs en même temps, on peut pas tout regarder. Mais donc, quand on hache un ail, par exemple, on peut pas regarder ce qui se passe dans la casserole de derrière. Mais avec le son, avec le bruit, on peut bien sentir que si c'est correct ou pas, comme température, par exemple.
Comme les petits bouillons également, ou le grésillement de certains.
Par exemple, ouais, le bouillon, c'est très très bon exemple. Ce que j'avais appris par mon ancien chef, Nicolas Levesque, on était à Lyon avant. Donc, justement, ce qu'il m'avait appris, c'est de faire un bouillon comme une infusion. C'est-à-dire, il faut pas trop bouillir. Et justement, quand on fait bouillir trop fort, on entend le bruit de bouillon qui bue très fort, même trop fort pour moi. Du coup, ouais, donc il y a ce genre d'information qui est assez importante dans la cuisine.
Vous voyez pourquoi il nous a séduit tout de suite quand même, Sugio Yamaguchi, qui aime cuisiner pour le son. La cuisine à l'oreille, je trouve que c'est bien. Et c'est d'autant plus amusant qu'en fait, la dernière fois que j'ai entendu parler de musique et de son, des cuissons, c'était avec Guy Savoie quand nous étions allés dans son restaurant où il disait aussi qu'il n'avait pas besoin de regarder, qu'il suffisait d'écouter cette jolie musique.
Je comprends très bien. Après, justement, c'est vrai qu'il y a des gens, peut-être il y a après chacun sa façon, il y a des gens qui mettent beaucoup d'importance à l'habituel, bah, l'odeur. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment différent pour tout le monde. Et je pense que c'est ça qui est bien aussi.
C'est un curseur, en fait. Mmh. Il y en a certains qui, bien sûr, à l'odeur, sauront tout de suite ce qu'il faut, ce qui va, ce qui ne va pas.
Je pense que chacun a sa façon.
Vous êtes en France, pourtant vous êtes japonais. Qu'est-ce qui vous a conduit et qu'est-ce qui vous a décidé à venir ici?
Quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à travailler dans un hôtel au Japon. Et j'ai rencontré quelques chefs japonais qui travaillaient en France. Et tous ces chefs qui étaient super gentils, et ils m'ont poussé de partir plus tôt possible. Bah justement, si je voulais voir ce qui se passe en France. Mais justement, après, franchement, je ne sais plus pourquoi c'est devenu comme ça, mais je voulais venir en France.
Mais pourquoi la France?
Bah justement, c'est quelque chose que je ne sais plus trop. En fait, à l'école, j'étais obligé de choisir soit cuisine française, soit cuisine japonaise ou cuisine chinoise.
Et c'était ces trois voies.
Ouais. Je pense que les trois cuisines qui fonctionnaient mieux au Japon, peut-être. Après, quand on apprend la cuisine française, il y a quand même un peu de paella, des pâtes italiennes. Il y a un peu de choses comme ça. Mais ouais, quand même, ouais, on était basé sur la cuisine française.
D'accord, certains types de cuisine.
Et, mais du coup, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. C'était la cuisine française parce que franchement, le chef, le prof, qui était super sympa aussi. Et j'avais bien aimé les talks, la grande talk, le tablier qui est long.
Le style.
Ouais, mais justement, c'est le style qui m'a attiré aussi. Mais après, c'était vraiment le début. Après, justement, j'ai commencé un peu à apprendre aussi la langue. Et j'ai commencé à regarder un peu le début, livre de cuisine française et tout. Mais le début, c'était bien sûr que c'était un japonais. Mais un jour, donc, mon chef qui m'a donné un magazine qui... Il n'était pas dedans, mais je crois que c'était un vieux magazine qu'il a eu quand il était en France. Justement, son restaurant qui est passé, ben sur, je pense qu'il a eu 2-3 pages. Et justement, je crois que c'est lui qui avait préparé ses plats. Donc, il était assez fier. Et du coup, il m'a donné ce magazine. Et il m'a dit, bah, comme ça, déjà, tu peux regarder comment on écrit. Et, bah, je vais essayer de faire ce plat. Bah, vas-y, on a des produits et tout. Mais du coup, ouais, c'était un peu ça le début.
Donc, c'est là qu'est née votre passion pour les livres anciens de cuisine aussi, alors.
Ça aussi. Justement, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est pas que la technique de cuisine française. J'avais bien aimé, justement, l'histoire qui était super beau. Bah, justement, en fait, au Japon, souvent, on aime bien ça. Justement, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé en France. Quand on parle de Fernand Poiron, Alain Chapelle, évidemment, Paul Bocuse. Après, Paul Bocuse était encore jeune à l'époque. Mais justement, souvent, on parlait de famille trois gros. Il y avait qui d'autre?
Les Pics, peut-être?
Oui. Mais le père, ouais, André Pic. Et justement, c'était un peu la fierté pour nous, les jeunes cuisiniers, de comprendre ce genre de choses.
Comprendre ce genre de choses et aussi de s'imaginer dans des établissements dont vous lisez les livres et les histoires de ces familles qui marquent la gastronomie française depuis plusieurs générations. D'ailleurs, il y a un cuisinier qui vous a marqué, que vous avez rencontré, que vous avez emmené au Japon.
Ah justement, ouais, Olivier,
on parle
bien
d'Olivier,
sûr.
Olivier Rollinger.
C'est quelqu'un que je connaissais pas de base. Bah, bien sûr que je connaissais son nom, mais je crois qu'il avait déjà arrêté de travailler à un moment. Et justement, il y a 12 ans à peu près. Mais justement, j'ai eu de la chance de voyager au Japon avec lui, avec quelques amis, bah, évidemment, Ryoko Sekiguchi qu'on adore.
Qui n'est pas bien loin, qu'on adore aussi dans le goût du monde.
Et justement, ouais, du coup, donc, on a passé une semaine à peu près au Japon. On a voyagé à Iwate, au nord du Japon. Et bah du coup on a eu pas mal de temps pour échanger un peu tout ce qui se passe en cuisine dans le monde. Et évidemment c'est quelqu'un qui est super attentionné pour plein de choses. Il m'a fait poser plein de questions. Et du coup ouais je pense qu'à ce moment-là il y a pas mal de choses à changer aussi dans mon style de cuisine.
Parce que ce qui est intéressant c'est que Olivier Rollinger donc quand vous l'avez rencontré vous étiez déjà dans votre restaurant botanique. Donc vous aviez déjà une cuisine construite de vos années d'expérience notamment en France. Et du coup vous avez pu et l'initier à la cuisine japonaise ou aux produits japonais peut-être et en même temps avoir son regard sur votre cuisine déjà.
Mais en fait tout ce que je faisais avant c'était vraiment plutôt le technique de cuisine française, plutôt traditionnelle ou classique. J'étais vraiment passionné de tout ce qui est de technique et tout.
Les pâtés en croûte.
Par exemple. Et après, tout ce qui est de mijoter, par exemple, moi, j'adore des ragoûts. le bœuf, bah, on faisait pas forcément bœuf bourguignon, mais la jeu de bœuf bien fondante, le civet de cerf, le lièvre à la royale.
Ah, ça, c'était même une de vos spécialités, je crois, le lièvre à la royale.
Hein? Je dis pas que c'était la spécialité, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé à faire.
D'accord. Là, c'était le challenge pour utiliser un défi technique.
Oui,
oui,
justement, c'est quelque chose qu'on regarde souvent dans un livre, sur l'internet et tout. Non, j'en ai fait 2 fois quand j'étais à Lyon. Mais sinon, franchement, c'était presque jamais fait. Donc, c'était quelque chose que je voulais bien essayer. Et donc, voilà, ouais, c'était vraiment tout début de botanique avec un ami, Chikara Yoshitomi, qui est le chef de l'ambroisie aujourd'hui. Avec lui, on voulait bien profiter nos week-ends pour faire quelque chose un peu différent que, que les autres.
Un pâté en croûte de fou.
Ouais, du coup, ouais, c'est vrai. On a commencé à s'amuser un petit peu le week-end pour faire des pâtés, pour faire le lièvre. Ouais, c'était un peu le début. Mais après, justement, donc, avec la rencontre avec Olivier Rollinger, justement, ça m'a fait changer plein de choses. En fait, je me posais la question, pourquoi on jette la carotte qu'on met dans un fond de veau, par exemple? Ou souvent, quand on fait un fond, même le jus de veau, bah, souvent, on filtre. Et des fois, on mange pour le pas de personnel. Mais on mange pas tout très bien, par exemple. Souvent, on jette un peu trop de choses. Et je me demandais, il m'a pas forcément donné une réponse, mais justement, il m'a bien donné la chance, le rocajon de me poser la question. Du coup, donc, c'est à ce moment-là que je commence à me dire que déjà, moi, j'arrête d'éplucher la carotte. Parce que la carotte, ce que j'achète, elles sont bio, la peau, elles sont super bonnes. Et en plus, on peut gagner du temps. Et la carotte que j'achète, elles sont vraiment vivantes. Et qu'elles sont trop dures, donc c'est pas facile à épouser. Aussi. Ouais, du coup, ouais, après, franchement, il y avait plein de choses. C'était pas simple, mais ouais, justement, il y a plein de choses à changer depuis.
Il a bousculé vos curseurs, en fait, votre manière de voir et de penser. En tout cas, il vous a amené à repenser tout ça.
Et justement, il m'a bien aidé à faire comprendre ma racine, en fait. Bah, comme je suis japonais. Mais en fait, c'était pas forcément mon goût des plats japonais, par exemple. Un soupe miso, par exemple, c'était pas quelque chose qui me manquait du tout. Ça fait plus de 10 ans que j'habite en France, mais franchement, prendre le début, je pense que premier 5 années, je pense que j'ai goûté vraiment même pas une soupe miso. Donc, c'est quelque chose qui me parlait pas beaucoup. Donc, voilà. Ouais, donc, depuis, je commence à vraiment réfléchir sur mes origines. Et donc, ouais, c'est un peu ça. En fait, donc, c'est pas forcément le produit, mais souvent le technique, la façon de penser, façon de réflexion. Justement, ouais, donc, peut-être il y a beaucoup d'esprit. Et donc, ouais, depuis un moment, je commence à vraiment réfléchir un peu ce qui s'est passé avant dans l'histoire de cuisine japonaise. Quelque chose qui m'intéressait pas avant, mais là, franchement, ça commence à m'intéresser.
Vous revenez chez vous, maintenant, dans votre esprit. Ce qui est intéressant, c'est que il y a eu plein de rencontres, en fait, qui se sont faites à la même période dans votre vie de cuisinier. Je vous propose d'abord d'écouter encore un petit peu Alain Chapelle et vous saurez où je veux en venir.
Vous êtes célèbre pour vos produits. Alors, il paraît que vous connaissez le pêcheur qui vous pêche vos homards.
Oui.
C'est vrai?
Oui.
La dame qui vous ramasse vos mousserons.
La dame ou les personnes. Toute façon, au bout d'un certain temps, parce que nous sommes encore dans une région privilégiée, un petit peu, qui a la chance d'être cernée par le Dauphiné, par les lacs de Savoie pour les poissons d'eau douce, par la Bresse, par les monts du Lyonnais, par la vallée du Rhône, etc. On n'a plus de contact très, très sérieux avec les gens. Donc, je suis allé un petit peu à la recherche de tas de personnes avec lesquelles j'ai fait ami. Et je crois que tous les cuisiniers actuellement retournent vraiment aux sources comme ça.
Alors, dans vos émotions, vous parlez comme ça des fromages blancs de Madame Bailly.
À 50 mètres du restaurant, nous y allons toujours chercher le lait actuellement. Il y a Madame Bailly. Cette Madame Bailly, c'était la fermière. Quand j'étais gamin, j'avais gardé les vaches avec son mari, qui était un homme fabuleux. Et puis, un jour, Madame Bailly, très malade, avec une arthrose, n'a plus pu faire de fromage blanc. Et moi, j'avais ce souvenir de laitage spéciaux, comme vous avez des souvenirs d'odeurs de pommes, de je sais pas quoi. Bien oui, ça a été une vraie quête pour essayer de trouver le fromage blanc qui vous fasse autant plaisir que le fromage blanc que vous avez goûté dans l'enfance. Et je crois que c'est ça, le réel plaisir de la cuisine.
Le réel plaisir de la cuisine, l'émotion d'Alain Chapelle.
Exactement.
C'est Gueye Yamaguchi, quand vous entendez justement ce rapport entre un chef cuisinier et ces producteurs, ça vous évoque quoi?
Je pense que la première chose que j'ai vue à la télé, je crois, quand j'étais jeune, je pense que j'avais 20 ans et quelque chose, je crois que j'ai vu une émission de télé au Japon. J'ai vu un producteur de Japon, Alain Ducasse, qui visitait chez lui. Il croquait une carotte avec la terre. Ils disent que c'est super bon et tout. Donc je me dis, c'est vraiment quelque chose, c'est la classe. Mais c'est quelque chose qui était un peu loin, parce que comme j'étais un petit commis et tout pendant 10 ans, j'avais pas une relation directement avec les producteurs. Et justement, donc depuis quelques années, je faisais pas mal d'attention aux produits et tout. Mais justement, il y a 2-3 ans, j'ai rencontré Hélène de la ferme d'Artaud.
Hélène Réglin.
Qui est vraiment géniale. Donc, on se connaissait pas, mais on s'est échangé sur Instagram, par hasard, je crois. Il m'a dit, j'aimerais bien que vous goûtiez mes légumes. Donc, je vous envoie un colis, et vous goûtez, vous faites ce que vous voulez, vous me dites ce que vous en pensez. Et donc, j'ai reçu son colis, et j'ai ouvert. Et en fait, j'ai senti tout de suite qu'il y a une vie dans vraiment tous ces légumes. Il y avait beaucoup de légumes, mais franchement, tout est différent, mais tout est vivant. Et ça m'a donné un truc complètement différent qu'avant. Je pense que j'avais des beaux légumes avant aussi, mais franchement, c'était complètement différent. Il y avait beaucoup d'âme, en fait, dans ces légumes. Après, donc, j'ai dit ça à Hélène, et après, il m'a dit oui, parce que franchement, tous ces légumes, c'est comme mes bébés. En fait, je ne les produis pas.
Je ouais, les élève.
Voilà.
Le goût du monde. Clémence de Navi. Over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind. Troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I?
Over the Rainbow, Judy Garland, bien sûr, le magicien d'Oz. Vous écoutez RFI, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez Le Goût du Monde, nous sommes à table et en tête à tête avec Sugio Yamaguchi, le chef cuisinier du restaurant Botanique à Paris, français de goût. Dernièrement, japonais d'origine et curieux du monde et de la terre. D'ailleurs, cette chanson, Sugio, c'est vous qui l'avez choisie. Qu'est-ce qu'elle vous évoque et pourquoi l'avez-vous choisie?
En fait, c'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est que, en fait, ça me fait vraiment voyager. Le ciel, c'est quelque chose qui est vraiment lié un peu partout dans le monde. Un jour, justement, quand je voyage après n'importe quel pays, je regarde le ciel. Et c'est justement, ça me fait vraiment du bien, tout simplement. Et du coup, donc, chaque fois, ça me fait penser plein de voyages que j'ai faits. Plutôt des beaux souvenirs. Donc ouais, c'est quelque chose que j'aime vraiment tout simplement.
Et dans les champs, vous aimez bien l'écouter quand vous vous promenez dans les champs?
Oui, justement, quand dans la nature, par exemple, c'est pas pareil du tout quand on écoute ça à Paris, ou à Tokyo, ou quand dans les champs. Mais après, justement, c'est ça qui est bien aussi. En fait, n'importe, c'est un peu n'importe où je suis. La chanson est un peu la même chose, mais on s'en parle en même façon. Mais du coup, ouais, quand je suis dans les champs, tout ça, ou dans la nature, dans la forêt, quand j'ai 3 minutes, j'essaie d'écouter ça.
Ça vous transporte.
Ouais.
Comme vous ont transporté les légumes, petits légumes de vie, les enfants d'Hélène Réglin. Mmh. Quand on découvre cette relation naissante justement avec une maraîchère, parce qu'elle est maraîchère, mmh, en reconversion, elle a changé de vie aussi. Donc pour elle, c'est un autre rapport. Elle met vraiment de soi dans ses légumes, effectivement. Comment est-ce qu'on construit et qu'est-ce qu'apporte cette relation-là pour un cuisinier comme vous?
Justement, tout est lié, donc c'est assez histoire qui va être un peu long.
Non.
Justement, non, déjà, donc avec Hélène aussi, normalement, je crois qu'elle avait eu son problème de santé. Olivier aussi, je crois qu'il a eu la même chose. Et encore Philippe Guichard, qui est dans le sud-ouest, qui est mon meunier, qui fait la farine. Lui aussi, il a eu son problème de santé. Et maintenant, il y a encore Erwan Hubert, qui est mon malcher, qui est dans le sud de Paris, qui est vraiment génial, que j'adore. Et lui aussi, il se posait la question de tout ce qu'il mangeait. Donc, il avait pas trop de plaisir, donc il s'est dit, je me lance. Et du coup, donc, je pense qu'une fois ou plusieurs fois dans sa vie, chacun se pose des questions. Et justement, donc, il y a plein de gens que j'ai rencontrés presque en même temps, qui avaient presque le même problème, qui avaient presque la même vision. Après, chacun a sa façon un peu différente. Mais justement, donc, c'est ça qui était bien. Et justement, donc, c'est là que je commence à vraiment m'intéresser à ces artisans, par exemple, ou des maraîchers qui, justement, où ils savent très bien le faire. Moi, je ne sais pas faire. Justement, j'ai envie de le faire, mais je n'arrive pas. Justement, depuis sa rencontre, moi, j'ai essayé de semer des graines.
Au restaurant.
Ou justement, des fois, je fais ça un peu dans la rue aussi. Dans la rue, je mets quelques lentilles un peu comme ça. Ou je passe tous les jours. Et après la pluie, si ça pousse, ça germe, ça me fait un petit bonheur. Et du coup, depuis ça, en fait, j'ai bien compris que c'est comment difficile d'avoir une carotte bien grandie, une feuille de coriandre. En fait, c'est beaucoup de temps, et c'est pas tout le temps qu'on peut les avoir. Et c'est ça que j'ai bien compris avec cette démarche. Et du coup, donc, c'est là que je commence à vraiment affectionner aux produits, et surtout les gens qui savent faire ce genre de travail. Donc ouais, c'est vraiment, il y a beaucoup de respect. Du coup, depuis, franchement, je peux plus jeter une feuille de persil qui est tombée par terre. Je la récupère, je la lave. Soit on utilise, soit je mange.
Ça fait partie de votre apprentissage de cuisinier encore, qui se poursuit d'ailleurs.
Voilà, justement, c'est justement
dans le respect apporté aux légumes, aux producteurs. Mm-hmm. Et chaque producteur aura bien sûr sa main, sa façon de faire, et donc apportera quelque chose de différent.
Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que on peut vraiment apprendre tous les jours. Justement, quand on est chef de cuisine, on peut pas forcément apprendre par un autre chef, mais justement, il y a énormément de choses à apprendre dans la vie. Et justement, c'est le genre de rencontre qui me fait vraiment apprendre énormément de choses tous les jours.
Alors, Philippe Guichard, vous en avez parlé. Mm-hmm. On va construire votre cuisine également en l'imaginant. Parce qu'il y a un des plats qui est phare, en fait, dans votre cuisine et au restaurant botanique, c'est une tarte de légumes qui a changé au gré des années. Est-ce que vous pourriez nous expliquer déjà à quoi elle ressemble, cette tarte, à quoi elle ressemblait il y a 3 ans et à quoi elle ressemble aujourd'hui et qu'est-ce qui l'a fait changer?
Mais tout début, je pense que mon histoire avec la tarte, ça commence, je pense que depuis 2010, justement, le chef qui je travaille avec à Lyon, Nicolas Levesque, qui aimait vraiment la tarte, il faisait ça presque tout le temps. Mais un dessert, un classique. Tarte au chocolat, quelque chose de classique. Mais quand c'était très bien fait, c'était super bon. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc depuis le début de Botanique, on faisait la tarte, mais classique, plutôt le dessert. Et un jour, j'ai goûté le pâté de légumes de Johan Lastre, qui m'a vraiment impressionné.
Johan Lastre, champion du monde de pâté en croûte, que nous avions eu la chance de recevoir avec sa femme dans le Goût du Monde, et qui fait des potagers dans un pâté.
Voilà. Et justement, lui, il m'a vraiment impressionné. C'était vraiment un mélange de tout. Déjà, je faisais le pâté en croûte plutôt classique. Et à côté de ça, je me suis dit, mais c'est super. Donc justement, c'est un peu d'hommage à lui, mais j'ai un peu commencé un peu la même chose, mais un peu la façon différente. Et donc ça c'était vraiment le début de tarte de légumes qu'on fait au Botanique. Et donc ça, c'était vraiment le début. Donc juste après quelques mois, j'ai reçu le fameux colis d'Hélène. Et donc c'est là, franchement, déjà les légumes qui n'étaient pas pareils du tout, tout ce que j'ai utilisé. Même après, si je parle de nom, c'est la même. Il y a la carotte, aubergine, courgette, tomate.
Enfin, il y a carotte et carotte et aubergine.
Oui.
Hein, c'est ça que vous nous dites. Voilà. Il y a vraiment deux types de légumes. On le voit et on le sent au goût. Le goût est radicalement différent. Il n'y a rien à voir.
Ouais. Et du coup, c'était deuxième point de changement.
Je vais faire une boîte à bijoux, un écrin pour ces légumes.
Ah, mais c'était exactement ça.
Écrin de pâte.
Ouais, c'est vrai, c'est très bien trouvé comme mot, mais c'était vraiment ça. C'était bien bouillant. Franchement, il y avait la vie. Donc, je ne voulais vraiment rien gâcher. Après, évidemment, on ne va pas manger les grappes de tomates. Mais. Ouais, donc, je crois que c'est là que je commençais à faire un peu autrement Le début, c'est que le début, moi, je mettais les gros morceaux de légumes avec le bouillon de légumes que je faisais déjà à part, qui a été gélifié avec des gélatines de porc ou de bœuf, je me souviens plus. Et c'était très bon. Mais après, justement, donc avec les légumes de Hélène, je voulais faire un peu autrement. C'est-à-dire que je voulais cuire vraiment séparément. C'est-à-dire, je voulais cuire juste la carotte avec une petite plante qui allait bien, bah, disons, bah, avec du thym, par exemple. Il y avait un petit navet. Je voulais faire donc navet à la sauge, par exemple. Des courgettes à la coriandre. Justement, il y avait plein de choses. Chaque légume, je voulais cuisiner un peu différemment. Donc, c'est vraiment amusant. C'était un peu comme si on faisait la musique avec plein de trucs. Et du coup, donc, c'est super amusant. Donc, c'est là que je commençais à changer la façon de taillage de légumes. Au lieu de cuire une pièce entière, je commençais à couper déjà les finements des légumes. Et ça, c'était deuxième pas. Et après, troisième pas, c'était Olivier Langer qui est venu manger après notre rencontre au Japon. Et on avait bien échangé. Et à la fin, il m'a dit, mais c'était super bon, mais d'ailleurs, pourquoi tu utilises la gélatine de porc
dans ta tartelette?
Oui. Et bah, évidemment, c'est pas logique parce que c'est un plat de légumes. C'est un plat végétal, quelque chose de super naturel. Et justement, dedans, bah, si on met une gélatine industrielle, c'est pas naturel, évidemment. Donc c'est là que franchement je commence à vraiment faire une réflexion. Et donc maintenant je fais avec agar-agar. Évidemment, j'avais déjà essayé.
C'est une algue, hein, c'est ça, qui permet de gélifier et de maintenir justement, de tenir votre gelée.
Et justement, bah après, bah, ce qui était bien de ça, c'est que justement au Japon, quand on était allé ensemble, on avait vu une algue qui s'appelle kanten au Japon, qu'on met dans un bouillon, on cuit avec, et une fois qu'on enlève le feu, ça baisse un peu la température, ça va gélifier naturellement. Donc c'est quelque chose que je savais que c'est vraiment naturel. Donc là, j'étais assez fier d'utiliser ça. Et donc justement, après, Olivier, c'est quelqu'un de la mer. Donc pour lui, c'était un peu évident d'utiliser des algues pour bien gélifier. Et du coup, donc, c'est là que... Donc ça, c'est le troisième point de changement de cette tartelette. Et donc c'est comme ça que ça évolue. Et quatrième point, c'est Erwan.
Erwan, ouais. Reporter, votre maraîcher.
Ouais. Et un jour, donc, Erwan, il est venu manger grâce à Hélène. Et bah, il m'a donné un sac de légumes encore une fois. Et j'ai goûté, c'était super. Je l'ai contacté juste après. C'était super bon, bah, j'aimerais bien venir vous voir et tout. Moi, j'habite Bermont-Pralnas, donc c'était vraiment pas loin de chez lui. Un week-end, non, je suis allé le voir. J'ai vu la ferme. Bah, de quelque chose de naturel, quoi. Et donc, c'est là que j'ai le quatrième point, c'est que, à ce moment-là, c'est devenu quelque chose qui représente la ferme ou les champs de quelqu'un, de Amalcher. Donc, des fois, je fais ça avec des légumes d'Elvin, bien sûr. Des fois, je fais avec les légumes d'Hélène. Mais quelque chose qui représente les champs. Et c'est justement dans les champs des deux, mais peut-être il y a encore quelqu'un d'autre qui font aussi bien, ouais, que...
Et peut-être que de toute façon, vous n'êtes pas encore au bout de votre cinquième, sixième, septième point. Hein,
voilà. Ouais. Et justement, donc, ouais, donc, c'est là que j'aimerais bien, justement, pour représenter comment s'est fait une ferme qui est naturelle, c'est-à-dire qu'une ferme qui n'est pas faite juste pour faire des carottes, pour faire des poireaux, par exemple. Peut-être c'est bien aussi, mais justement, quand je vais chez Hélène ou chez Arvind, je sens beaucoup plus de vie, plus d'énergie. Et justement, c'est ça qui me touche beaucoup. Et du coup, donc, je voulais bien transmettre cette émotion au client. Et du coup, c'est un peu comme ça que la tartelette actuelle est née.
Mais qu'elle est bien belle et vous pourrez la retrouver en photo sur la page du Goût du Monde, bien sûr. Ce qui est amusant, c'est que toutes ces démarches-là, vous les avez faites pour vous, mais vous les faites partager également. Parce que maintenant, vous emmenez des chefs, Manon Fleury, à laquelle je pense notamment, visiter, se rendre à la ferme, voir comment votre producteur et votre maraîcher travaillent. Il est aussi intervenu auprès de l'école comestible de Camille Labro, qu'on avait également reçu dans le Goût du Monde, pour apprendre aux enfants tout petits, en fait, quel goût peut avoir et quelle importance ont ces légumes dans leur vie et une bonne alimentation, et le fait de choisir. Est-ce que c'est un esprit et une envie chez vous de créer une sorte d'écosystème?
Oui, c'est un peu ça. Non, en fait, c'est quelque chose que j'ai appelé par Hélène. Bah, en fait, la meilleure façon de les soutenir, c'est d'acheter en direct. Et surtout, on négocie pas le prix. Souvent, on imagine que quand on achète en direct, ça veut dire qu'on peut payer moins cher que passer par quelqu'un. Mais ce que je propose à Evan, en fait, il m'avait proposé un prix. Moi, je lui ai dit, mais ça, en fait, moi, je paye beaucoup plus cher quand j'achète par quelqu'un d'autre un fournisseur, par exemple.
Oui, avec des intermédiaires, ouais, alors qu'il vaut mieux que je vienne directement.
Du coup, c'est un peu bizarre que je paye moins cher à lui. Donc, je lui dis, je pense que le prix, ça peut être un peu plus haut. Mais c'est histoire de 30, 40 centimes. Hein.
Ouais.
Mais justement, donc, c'est comme ça que j'ai essayé de le soutenir, j'essaie de l'aider. Et en même temps, justement, il m'apporte énormément de choses.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, j'achète, par exemple, quand le prix de carottes qui coûte 3 euros le kilo, je dis n'importe quoi. Hein. Justement, avec ces légumes, il y a toujours les fans. Donc, avec les fans, au final, ça devient beaucoup moins cher. Et quand je lui demande, en fait, Erwan, j'ai besoin de betteraves dans. Je dois le recevoir demain, mais je vais l'utiliser dans 6 jours. Et quand c'est comme ça, il me met ça dans la terre, il me la donne, et du coup, ça tient facilement pendant 20 jours. Je crois que je l'ai laissé pour voir. Après, c'est normal parce que, en fait, elles sont toujours vivantes. Mais du coup, ouais, c'est un peu prétentieux de dire que je l'aide, mais en fait, on échange vraiment.
C'est un apprentissage en botanique pour vous, à comment les plantes poussent et comment vous pouvez adapter justement votre cuisine. Parce que vous en faites des salades de fan, vous prenez le produit dans son intégralité et vous en créez quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Je vous emmène dans un autre terrain. Là, on va parler de 4 mains. Parce que ça, c'est dans votre envie de goûter le jardin d'Erwan.
Et aussi voyager aussi.
Goûter le monde et voyager. Mise en cuisine et mise en musique, donc, notamment pour votre premier 4 mains avec le cuisinier Maurice Sacco.
On s'est rencontrés à l'occasion d'un shooting. Moi, je connaissais un peu son travail et lui aussi le mien. Donc, on a échangé comme ça et on s'est dit que ça pouvait être cool de croiser nos influences. Justement, lui amenait son Japon et moi, j'amenais ma vision justement du Japon avec l'Afrique. Un petit crossover entre l'Afrique et le Japon sur le mafé et le donburi, qui sont deux plats du coup qui ont des composantes qui sont communes, une base de riz et du bœuf. On a beaucoup échangé au début justement, voir dans quelle direction chacun allait partir et autres. Et puis ensuite, il y avait aussi une notion où chacun fait sa vision et c'est ce qui est beau parce qu'on part d'une recette commune. Au final, il y a deux choses qui ne se ressemblent absolument pas. Je vais expliquer un peu les marqueurs forts du mafé et qu'est-ce qui fait qu'un mafé est un mafé et pas juste une sauce arachide. Et il a pigé tout de suite, entre guillemets, l'essence du mafé, quoi. Ça m'a sauté aux yeux, moi, sa curiosité, parce que tout de suite, il m'a posé énormément de questions sur le mafé. Et c'était toutes des bonnes questions, en fait. C'est ce qui m'a fait vite sentir que j'échangeais avec un vrai chef. Il a cet instinct du cuisinier, au final, où il comprend tout de suite les raccourcis, les accords, pourquoi on fait telle chose et comment le goût se développe. Parce que moi, quand je lui ai expliqué le mafé de manière orale, je lui ai juste dit que c'est une base de garantie aromatique, un bouillon de bœuf où on cuisait avec le bœuf directement dedans. Et ensuite, l'arachide qu'il fallait laisser cuire assez longtemps pour que ça tranche. Et il est parti de ça. Et au final, il m'a envoyé des photos, mais le lendemain, son truc, c'était un mafé, quoi. Je suis dit, ok, c'est un esprit curieux, très vif, doté de toutes les qualités que je dirais du vrai cuisinier, qui est la curiosité, la capacité, une sensibilité. Comme il habite à côté, il est venu, on a échangé nos mafés. Ses premières impressions quand il a goûté le mafé, il a comparé avec le sien. Il a noté tout de suite ce qu'il fait dans ma cuisine, c'est la puissance aromatique et que les curseurs étaient un peu plus levés sur des matières. Déjà, on était plus arachide parce que la sauce m'a fait, quand on a mangé toute sa vie, on sait que c'est l'arachide qui fait. Il a tout de suite noté la note torréfiée en fait. Et il a tout de suite perçu un peu les marqueurs de ma cuisine dès qu'il a goûté ce mafé.
Sa démarche de faire des 4 mains avec d'autres chefs, elle répond à quoi selon vous?
Pour moi, ça répond à une volonté d'ouverture. Et aussi une volonté peut-être d'accomplissement et de perfectionnement. C'est peut-être un perfectionniste dans l'âme et qui a envie justement de développer sa cuisine. Et il a l'intelligence de se dire que pour développer sa cuisine, il faut qu'il sorte de sa zone de confort et qu'il aille voir d'autres univers.
Un mafé partagé, Maurice Sacco du restaurant Mosuke. Une bonne expérience, une première.
Ah non, c'est trop bien parce que c'était vraiment amusant. Et du coup, c'était vraiment mon seul objectif. De s'amuser, d'échanger, de voyager. Mais c'était vraiment, au tout début, c'était vraiment pour nous. Puis c'est devenu quelque chose pour partager avec tout le monde. Je savais que tout le monde voulait voyager. Comme moi, comme tout le monde.
Du coup, on voyage.
Donc voilà, ça continue.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
You can't move on.
Solo du groupe collectif aux Sisters sur RFI, vous nous rejoignez, bienvenue, vous écoutez le goût du monde, à proprement parler, le goût du monde ou même des mondes, exploré et partagé par notre invité, le chef japonais Sugio Yamaguchi, chef de botanique à Paris, cuisinier responsable, inventif, créatif, généreux et totalement curieux. Donc on a vu ce Donburi Mafé réalisé à quatre mains avec Maurice Sacco, le chef de Musuke. Et donc cette première expérience a tout de suite donné des petits. En l'occurrence, une seconde expérience avec la chef Léa Etchegoyen, basque. Mm-hmm. Donc on est dans quel esprit de cuisine ?
Quand j'ai fini ça avec Molly, je me suis dit que c'était vraiment bien. J'avais vraiment envie de continuer ce voyage. Et donc, je commençais à chercher avec qui, justement, je vais m'amuser.
Et où je vais maintenant?
Justement, c'était un peu ça. C'était un peu comme si je cherchais la destination de mes vacances, en fait. Je voulais pas faire quelque chose entre amis, en fait. Justement, ouais. Franchement, je voulais rencontrer des gens.
Rencontrer et le cuisinier et la culture du cuisinier.
Voilà. Et du coup, donc, j'ai cherché sur Instagram, j'ai posé la question, j'ai eu quelques messages, donc soit quelqu'un qui disait « moi, ça m'intéresse », soit quelqu'un qui dit « peut-être bah, fais ça avec je sais pas qui ».
Un tel ou une telle.
Mais du coup, c'était bien drôle parce que c'était assez varié. Mais après, évidemment, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui j'aime beaucoup, un esprit, qui m'ont poussé plein de choses. Et justement, donc, Léa, tu crois que Léa, c'était la personne qui m'avait contacté en premier et qui avait l'air super motivé, super sympa. On s'était déjà échangé quelques fois, mais on se connaissait pas trop. Justement, je connaissais même pas son nom de famille, par exemple. Mais je trouvais, après, c'est, bah, merci Instagram.
C'est sûr, ça décloisonne complètement dans vos relations pour se rencontrer les uns les autres, pour découvrir des cuisines. Même la chef Manon Fleury, vous l'avez rencontrée sur Instagram, enfin, découverte un peu.
Ouais, on a échangé un peu sur Instagram, et après, on était allé voir chez Rouen ensemble, tout ça. Et donc, avec Léa, donc, on s'est dit, bon, comme c'était super sympa, je me suis, bah, au bout de 5 messages, on s'est dit, bon, vas-y, on fait. Après, elle m'a donné pas mal d'idées de plat basque. C'est elle qui a presque inventé ce qu'on avait fait. Et franchement, elle avait beaucoup d'idées. J'avais des beaux produits dans ma tête. Et elle m'a parlé de taloa. De taro, pardon. Il faut pas prononcer A. C'est taro.
Non, c'est basque. Donc, talo ou taloa, c'est une galette.
À base de maïs, de base. Mais justement, depuis quelques moments, on mélange un peu de farine de blé aussi. Pour la facilité de travail, sinon ça se casse un peu trop facilement, trop souvent. Du coup, il m'a parlé de ça. Et au fait, ce qui était bien, c'est qu'on peut mettre en fait tout ce qu'on veut. Traditionnellement, ils mettent le fromage, le jambon, tout ça. Et après, justement, un peu dans le même esprit, au Japon, il y a une galette qui s'appelle okonomiyaki. Okonomiyaki, ça veut dire que tu mets tout ce que tu veux dans ta galette. Donc il y a des gens qui mettent du porc, des crevettes, béziers, bien sûr. Donc il y a tout. Et donc, justement, l'esprit qui était complètement parfait, en fait.
C'était une porte ouverte au monde entier, là, dans cette galette. Alors, je voudrais juste que vous nous parliez d'une passion qu'on a peu évoquée ou juste abordée très légèrement depuis le début de cette émission, c'est votre passion pour les pâtes.
Oui.
Pour les farines, pour la pâte. Justement, parce que le pâté en croûte, c'est un pâté dans une pâte. Qu'est-ce qui est fascinant pour vous dans les pâtes?
Et en fait, la pâte, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup depuis mon arrivée en France. Je crois que quand j'avais 12 ans, je commençais à travailler dans un restaurant à Jurançon. Et je crois que j'ai resté 6 mois en tout. Quand j'ai fait 2 mois aux garnitures et tout, on m'a passé au pâtissier, que je n'avais jamais fait. Donc c'est là que je commençais à toucher la farine. En fait, c'était presque impossible à faire, en fait. J'avais presque jamais appris à faire la pâtisserie. Mais j'étais obligé de faire un macaron, j'étais obligé de faire un cake. Mais du coup, ouais, c'était pas très simple. Mais c'est à ce moment-là que je commence à vraiment travailler et toucher. Pas comme on dit, de mettre les mains dans la pâte. Mais c'était quelque chose qui n'était pas très agréable pour moi, en fait, au début. Parce que franchement, je ne savais pas trop quoi faire. Donc j'avais un peu peur. Donc si je travaille trop, je pense que la pâte devient trop dure, ou contre l'air. C'était ça le début, mais justement, donc, avec le temps, ça commence à être quelque chose d'amusant. Donc, du coup, on revient sur le sujet de pâté en croûte, au début avec Tchika, de l'ami. Et du coup, donc, on a commencé à faire ça. Et, je crois que c'est à partir de là que je pense que je commence à aimer. Parce que sinon, en attendant, bien sûr que je faisais déjà la tartelette, des ravioles, la pâte fraîche et tout. Mais c'était pas quelque chose qu'on réfléchissait un peu trop, comment on travaille et tout. Mais justement, donc, le pâté en croûte, c'est quelque chose qui, justement, on touche vraiment tout le temps la pâte. Donc, ça nous donne beaucoup de réflexion, en fait. Parce que ça doit être un peu cassant quand on mange, mais en même temps, il faut pas que ça se casse pendant la cuisson. Du coup, il faut trouver
un subtil équilibre entre le croustillant de la pâte, en même temps le fondant quand c'est dans la bouche, et oui, en même temps que sa réception, que ça se fasse vraiment l'écho de tous les gels, les sucres, les légumes, ce qu'on va mettre dedans. C'est infini aussi.
Ouais,
ça.
C'est infini.
Et un quatre mains avec un pâtissier, alors, du coup.
Et du coup, non, en fait, non, ça, c'est très bien aussi. Mais justement, donc, c'est quelque chose qui me passionne. Justement, comme on disait tout à l'heure, j'aime beaucoup la culture de cuisine française. Donc, je lis beaucoup dans le vieux bouquin et tout. Donc, dedans, il y a beaucoup de trucs de la pâtisserie. Donc, mais quand on dit pâtisserie, mais il y a bien sûr la pâtisserie salée. Comme le pâté en croûte, le bol au vin. Il y a des choses comme ça qui... Le gougère aussi, c'est salé, c'est super bon. Ouais, mais du coup, ouais, il y a plein de choses comme ça. Mais du coup, c'est pour ça que je respecte beaucoup le travail de pâtissier. Quelque chose que j'aime faire, mais justement, je pense que les professionnels qui font beaucoup mieux que moi, donc je reste un peu faire au pâtissier. Comme je n'essaie pas trop faire mon pain, j'ai déjà essayé, mais justement, ouais, c'était pas trop mon truc.
Nouvelle étape, ça va être.
Justement, ouais, donc chacun son métier, justement. Donc ouais, c'est comme ça que depuis le début de Botanique, que je prends toujours un pâtissier ou une pâtissière qui s'occupe de la pâte pâtissier.
De la pâte. On met peut-être un quatre mains avec un pâtissier un de ces jours. En tout cas, on a quitté la région basque avec Léa. Et ce week-end, on va célébrer le printemps. C'est demain, 21 mars. Aujourd'hui, 20 mars. Vous êtes avec Ryoko Sekiguchi, qu'on connaît bien, auteure, traductrice, poète. Un quatre mains autour du curry japonais à partir d'un mélange d'épices concocté par Mathilde Rollinger, qui s'occupe maintenant des épices de la famille.
Je pense que si Sugio a apprécié cette poudre, c'est que justement ce n'est pas la poudre de curry traditionnelle, régressive, le retour à l'authentique, parce que c'est le mélange des arômes que Olivier Roulinger, Mathilde et Hugo ont senti lors de leur voyage au Japon, qui ont traduit à leur manière leurs sensations, et donc c'est un curry qui a voyagé, en fait, qui ont passé par la Bretagne et qui est arrivé jusqu'à Paris chez Suyo. Je pense que c'est ça qu'il a apprécié. C'est ce voyage, je pense, cette liberté. En fait, on appelle ça le curry japonais pour le respect de l'origine. Mais en même temps, je pense que toute la cuisine est voyageuse. Et le curry japonais est une belle démonstration d'apprentissage, les échanges qu'il peut y avoir lorsque deux, trois cultures se rencontrent. Suyo est très sensible à ça. J'ai goûté au cours de ces essais. Alors, à la fois, moi, je sens une sorte de nostalgie parce que c'est bien le curry japonais. On reconnaît, tous les Japonais le reconnaissent comme curry japonais. Mais en même temps, je reconnais aussi les légumes qui viennent de Erwan, son producteur. Le goût de légumes français, comme j'achète aussi ces légumes, qui me procure aussi une autre sorte de familiarité, vous voyez. Et donc, moi, en tant que Japonaise qui habite en France et qui achète ces légumes, justement la familiarité, à la fois du côté français et à la fois du côté japonais. C'est assez étrange, parce que c'est à la fois la curry japonais, mais c'est curry français. Et c'est vraiment le soul food. Chaque foyer a son curry. C'est comme le goût de sauce vinaigrette. Pour chaque maison, c'est la vinaigrette de chez nous qui est la meilleure. Mais en même temps, ça n'empêche pas de goûter la salade ailleurs. C'est un goût qu'on ne peut pas refuser, en fait.
Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, bah, justement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'on adore le culi. Je ne sais pas s'il y a des Japonais qui n'aiment pas le culi.
Mais c'est une découverte en plus, parce que en France, en tout cas, c'est très récent. On n'avait jamais entendu parler de ce curry japonais.
Oui, c'est vrai. Même nous, les Japonais, on ne considère pas qu'on aime ça. Mais c'est quelque chose qui est là depuis nos enfances.
Depuis toujours.
Je pense que c'est quelque chose qu'on ne sait pas pourquoi, en fait.
Comme la vinaigrette, c'est pas mal.
Depuis toujours.
Le lien avec la vinaigrette et la salade. Dans quel pays va-t-on se rendre ensuite, après ce quatre mains avec Ryoko?
Après, justement, on n'a pas encore fixé la date, mais justement, je suis en train de discuter avec une chef iranienne. Mais je dis pas,
pour
Nowruz,
en plus. c'est la nouvelle année, en tout cas le printemps iranien. Mm-hmm.
Après, il y a un chef qui est originaire de Tahiti aussi. C'est le genre de choses qui me fait envie de voyager. Ouais. Après, justement, c'est comme un vrai voyage, en fait. C'est pas très facile à fixer une date. Faut beaucoup de préparation. Du coup, ouais, j'ai envie de faire ça toutes les semaines, mais c'est pas très facile.
Ryoko a une question pour vous.
Si on peut cuisiner un sentiment, qu'est-ce que tu voudrais cuisiner comme sentiment?
La tristesse.
La tristesse.
Ça peut être amusant.
Moi, je pensais que vous auriez dit l'amour, mais non, la tristesse.
Ouais, l'amour, c'est un peu trop facile, trop
c'est
évident.
C'est trop cuisiné, c'est trop revu. Vous avez apporté, que la tradition, c'est déjà la fin de cette émission, c'est très triste.
C'est
Moi, je vais cuisiner la tristesse avec des fleurs de pissenlit un peu amères. Un ingrédient et un ustensile que vous partagez avec nous, Sugio.
Un ingrédient, c'est ça, en fait. C'est du riz, en fait.
Du riz.
Ouais, c'est quelque chose qui est consommé, qui est mangé un peu partout dans le monde. Mais chacun sa façon. Et en fait, on mange énormément, mais en fait, je pense qu'on ne connaît pas assez comment bien cuisiner. Et quand c'est vraiment bien fait, c'est super bon.
Le riz.
Oui.
C'est un peu l'ingrédient point commun entre plein de cultures dans le monde.
Mm-hmm. Justement.
Comment ça s'appelle, ce que vous nous avez apporté?
Ça, c'est onigiri.
Onigiri,
c'est du riz cuit, mais qu'on forme dans nos mains.
Et qu'on emporte en voyage.
On mange dans le train, à l'école, au travail. C'est un peu comme notre sandwich. Quoi,
le casse-dalle, le riz de poche. Mm. Et comme ustensile?
Ustensile, justement, il y a plein de choses, mais je pense que je commence à me dire que peut-être c'est les baguettes en bois.
Et pourquoi en bois? Elles sont en bois au Japon?
Au Japon, c'est en bois. Et justement, c'est qu'après, je pense que chaque pays, c'est un peu différent. Il y a des pays qui utilisent des baguettes en métal et tout. Mais justement, le bois, c'est quelque chose qui me bat très bien, en fait, dans les mains. Ça passe assez naturellement. Et après, je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose que j'adore. Et justement, c'est quelque chose que je ne faisais jamais avant. Je n'ai jamais utilisé les baguettes pour dresser des plats. Mais depuis le confinement, en fait, je commence à vraiment utiliser des baguettes pour dresser des choses. Donc voilà, c'est un petit changement.
Vous allez retrouver
de cette année.
C'est bien. Merci beaucoup. Merci Sugio Yamaguchi.
Merci Clémence pour l'invitation.
C'était un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été aussi généreux dans votre partage. Botanique se trouve 71 rue de la Folie Méricourt à Paris. Sur Instagram, bien sûr, on peut vous trouver. Le réseau sur lequel vous partagez avec autant de générosité des recettes en pas à pas, quelques pickles fantastiques, même des raviolis. J'ai vu quelques pâtes également que vous avez partagées, dont une recette que peut-être vous partagez avec nous sur la page du Goût du Monde et sur les réseaux sociaux de l'émission. Merci beaucoup à Cécile Bonici pour la réalisation et la mise en onde de ce Goût du Monde. À vous tous de nous écouter et de nous suivre chaque semaine, de vos plats cuisinés et partagés également en ligne avec des photos. Un petit coucou, hello à Kalilou Terrira notamment, qui nous avait envoyé un beau couscous la semaine dernière. On vous donne rendez-vous à tous, bien sûr, la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous.
Tout à l'heure sur RFI.